Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les enquêteurs cherchent toujours ce matin à comprendre les motivations qui ont poussé un agent administratif de la préfecture de police de Paris à tuer à coups de couteau hier 4 fonctionnaires au cœur du centre névralgique de la police parisienne. Les perquisitions menées au domicile de l'assaillant n'ont pas révélé d'éléments accréditant l'hypothèse d'une radicalisation. De même, l'hypothèse du conflit professionnel, un temps évoqué, ne semble pas davantage privilégiée.
Dans votre journal également, l'Assemblée a voté hier soir un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par mère porteuse dans un pays étranger où la GPA est autorisée.
Oui, et le tout contre l'avis du gouvernement, lequel a aussitôt réclamer une seconde délibération. À l'étranger, le bras de fer entre manifestants et forces de sécurité se durcit en Irak au quatrième jour d'un mouvement de contestation qui a déjà fait des dizaines de morts et près d'un millier de blessés. Puis à Hong Kong, les autorités ont invoqué ce matin une loi d'urgence pour mettre un terme à 4 mois d'une contestation sans précédent. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Thierry Pech, directeur de la Fondation Terra Nova, à l'occasion de l'ouverture en France de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec aujourd'hui le plaisir d'accueillir un professeur à la London School of Economics à Londres, le sociologue Richard Sennett, qui vient nous voir à l'occasion de l'apparition du 3e volet de sa trilogie sur l'homme qui fait, l'Homo Faber. Ça s'appelle Bâtir et habiter. C'est une réflexion sur la ville pour une éthique de la ville. On écoutera son plaidoyer dans la deuxième partie.
Merci et à tout à l'heure. Conflit personnel, coup de folie, attaque djihadiste, ce matin encore aucune piste n'est pour l'heure écartée ni privilégiée pour essayer de comprendre les motivations qui ont conduit donc hier un informaticien de 45 ans s'aurait mué à poignarder à mort 4 policiers dont une femme dans les locaux de la préfecture, l'un des bâtiments les plus sécurisés de la capitale. Une enquête pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Le parquet antiterroriste lui suit également l'affaire mais n'a pas été saisi pour le moment. Claire Flochel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors en attendant d'en savoir davantage, dans tous les cas, une question demeure. Comment prévenir de tels actes ? Ou dit autrement, est-il possible de détecter un comportement étrange, quelqu'un qui ne va pas bien ? Quel est au fond, Claire, l'accompagnement dont bénéficient aujourd'hui les policiers au travail et notamment ceux qui, comme l'assaillant, donc ne sont pas sur le terrain ?
L'homme était informaticien au sein de la direction du renseignement à la préfecture de police de Paris. Il avait été embauché dans le cadre d'un concours police nationale en 2003 et avait été l'objet à cette époque d'une enquête de moralité, c'est la procédure. Une enquête auprès de son éventuel ancien employeur, ainsi qu'auprès de sa famille et de son voisinage. Ces investigations permettent de vérifier les antécédents de la personne. Elles sont d'ailleurs paradoxalement plus légères aujourd'hui. Mais cette enquête n'exclut pas que des drames se produisent des années plus tard, puisque le suivi, la vigilance et l'observation des policiers est entièrement assuré ensuite par leur chef de service. Ce dernier procède à une évaluation une fois par an pour étudier le comportement de ses employés, le travail qu'ils fournissent, l'environnement du poste. Il ne s'agit donc pas d'un suivi psychologique. C'est ce que regrette d'ailleurs le syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, le SNIPAT. Des services d'assistance psychologique sont bien évidemment à la disposition des agents, mais il faut qu'ils en fassent la demande ou bien leur supérieur hiérarchique, ce qui est rare selon le SNIPAT, et c'est le manque de moyens qu'il a dénoncé par le syndicat.
Alors dans la police nationale, Claire, les personnels administratifs ne sont pas nombreux, seulement 8%, ce qui peut créer une sorte de frustration.
Un personnel sous-représenté dans l'ombre, souvent perçue comme une sous-catégorie de la police, m'a expliqué un membre du SNIPAT, d'où certaines frustrations en effet par rapport aux collègues qui sont eux sur le terrain. L'assaillant a-t-il été frustré ? Nous n'avons pas la réponse pour le moment. En tout cas, il n'était pas cohérent d'après sa femme. Elle a indiqué en garde à vue que la nuit précédant son passage à l'acte, son mari avait eu des visions et entendu des voix.
Merci Claire Flochel. Débat houleux à l'Assemblée nationale hier soir au sujet de la GPA, mais plus encore chose rare, c'est la majorité parlementaire qui cette fois-ci s'est opposée au gouvernement. Les députés ont en effet voté un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA à l'étranger contre l'avis du gouvernement qui aussitôt a réclamé une seconde délibération. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
ou quand la majorité se divise, eh bien l'opposition, elle, se frotte les mains.
L'opposition de droite a effectivement vécu cette nuit un petit moment de grâce. On vous avait dit que la GPA s'inviterait dans le débat. Ce soir, elle a partiellement obtenu gain de cause, a lancé la députée LR Annie Genevard. Car la volonté du gouvernement, c'était bien au départ de dissocier PMA pour toutes et GPA. La PMA pour toutes semble acceptée par l'opinion publique, la GPA beaucoup moins. La PMA pour toutes n'était donc pas un angle d'attaque suffisant pour l'opposition. Elle a donc agité le spectre d'une légalisation du recours aux mères porteuses comme un épouvantail. Jusqu'à la nuit dernière, cela ressemblait à un fantasme, mais cette nuit, ce fantasme a pris corps avec l'amendement de ses députés LREM. La question qu'il soulève est légitime, quelle existence légale donner aux enfants nés d'une GPA à l'étranger, mais le calendrier politique est très risqué, car amalgamer deux problématiques différentes aux enjeux très distincts, c'est risquer de faire face à un mouvement d'opposition exponentiel. La Manif pour tous qui organise un grand rassemblement dimanche à Paris contre ce qu'elle appelle la PMA sans père n'attendait sans doute que cela. Le mot d'ordre de la manifestation est d'ailleurs contre la PMA sans père et la GPA.
Merci Antoine Marette. Emmanuel Macron avait choisi de repartir à la rencontre des Français hier à Rodez pour tenter droit dans les yeux de les convaincre du bien fondé de sa réforme à venir des retraites. Renouant avec l'esprit du grand débat organisé en réponse à la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État s'est donc de nouveau prêté au jeu des questions-réponses. Anne-Laure Gimet, bonjour.
Bonjour.
Alors face à cette réforme, source de mécontentement grandissant et qui menace toujours d'ébranler l'acte 2 de son quinquennat, toute la question était de savoir si Emmanuel Macron allait laisser la voie ouverte à de possibles modifications ou au contraire insister sur les orientations de l'exécutif. Et au final, Anne-Laure, disons qu'en ouvrant le débat, eh bien le chef de l'État aura surtout laissé entrer un certain nombre de recommandations.
Oui, on a eu hier des clarifications et des lignes rouges. Emmanuel Macron a d'abord fait une promesse concernant le niveau minimum des pensions de retraite.
Le minimum contributif, on va le mettre à 1 000 euros. Il est aujourd'hui à 970 euros. Ça veut dire que quiconque aura cotisé et aura ses points aura une retraite qui est d'au moins 1 000 euros.
L'âge légal, lui, ne change pas, 62 ans, mais il y aura un âge pivot, a confirmé le chef de l'État, en dessous duquel on partira avec une décote. Et ça, cet âge, il sera défini à l'issue de cette concertation. L'autre question porte sur la valeur du point. Il y aura, a-t-il précisé, une règle d'or pour définir la manière dont on le calcule. Le chef de l'État a aussi répondu aux professions libérales. On ne puisera pas dans vos réserves pour financer le futur régime. Et puis, une confirmation hier soir, la pénibilité sera bien prise en compte.
Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Mais il y a des risques au travail qui ne sont pas les mêmes. Quand on travaille de nuit, c'est pas pareil. Quand on est exposé à des risques chimiques, quand on est exposé à des activités où il y a des troubles musculo-squelettiques, il est normal qu'on ait en quelque sorte des bonus, qu'on puisse prendre sa retraite plus tôt. Mais ce sera plus statut par statut.
Autre précision apportée hier soir, les parlementaires seront bien concernés par cette réforme. Il y avait eu de nombreuses questions sur ce point. Une réforme qui ne touchera ni les retraités actuels, ni les plus de 56 ans. Mais pour ces derniers, il reste une question en suspens, celle de savoir s'il faudra cotiser plus longtemps. Et là, Emmanuel Macron le reconnaît, s'il manque 8 à 10 milliards d'euros en 2025, la réponse sera oui.
Merci Anne-Laure Jumet. Aux portes de Paris, coincées entre les routes menant aux aéroports du Bourget et de Roissy, les terres arables du triangle de Gonesse dans le Val d'Oise qui ont fait la richesse de la plaine de France attisent toujours et encore les convoitises. Pour preuve, le projet de méga complexe Europa City avec des centaines de boutiques, une salle de concert mais aussi des hôtels de luxe, sans oublier un parc d'attractions. Ce projet de 430 000 m², le plus gros investissement privé en France depuis Disneyland Paris, entend s'implanter au nord de la capitale en 2027. Sauf que le projet divise quand les uns dénoncent un cannibalisme commercial organisé menaçant non seulement les commerces existants et les centres-villes des alentours, mais aussi les sols, en bétonnant le cas échéant les terres les plus fertiles d'Île-de-France. Les autres y voient d'abord l'occasion d'abreuver le bassin d'emploi. Ou quand Europa City pose au fond la question du modèle de développement à la fois économique, environnemental et d'aménagement retenu pour tous ces territoires périurbains. Alors Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce matin, une marche des opposants à ce méga complexe est donc partie de Gonesse pour rejoindre Matignon, en même temps qu'un collectif d'habitants appelait, lui, à un rassemblement de soutien au projet. Pendant ce temps, tout le monde attend par ailleurs que le gouvernement se positionne. Et dans ce bras de fer, Anne-Laure, eh bien chacun garde en mémoire l'exemple de Notre-Dame-des-Landes.
En effet, pour l'instant, le béton n'a pas coulé et juridiquement, les terres du triangle de Gonesse sont redevenues agricoles, même si une procédure d'appel est en cours. Mais au cœur de l'été, des engins de chantier sont arrivés sur le site pour des travaux préparatoires à la future gare de la ligne 10. 17 qui doit relier la Seine-Saint-Denis à la Seine-et-Marne en passant par le Val d'Oise. Ces travaux, pour l'instant de simples canalisations, ont suscité la colère et l'inquiétude des opposants à Europa City. Au début du mois, ils sont même quelques-uns à être restés dormir sur ces terrains entre la départementale et les deux aéroports. Des collectifs d'action se sont formés, rodés à la désobéissance civile. Alors le triangle de Gonesse n'est pas encore devenu une ZAD. Il faut dire que les conditions d'installation y sont nettement plus rudes qu'à Notre-Dame-des-Landes. Mais si les travaux de cette gare débutent effectivement, alors, prévient Bernard Loup, le président du collectif pour le triangle de Gonesse, alors tout peut basculer.
Si le chantier démarre, c'est une situation irréversible. On fera tout pour résister. Nous, on ne souhaite pas que ça devienne comme Sivens sous Notre-Dame-de-Lande. Jusqu'à maintenant, tout s'est très bien passé. On souhaite que ça continue pour arriver à une décision politique. Il est bien clair que s'ils construisent la gare, elle ne restera pas dans les champs. On est juridiquement sur des terres qui sont redevenues agricoles. La mise en service de la gare a été repoussée l'année dernière de 2024 à 2027, donc il n'y a aucune urgence pour nous de démarrer ces travaux. Donc on considère que c'est un passage en force.
Voilà, cette gare, selon lui, n'a de sens que pour convoyer les futurs visiteurs d'Europa City. Mais si le projet capote, à quoi servira-t-elle? Les opposants craignent qu'elle ne devienne un cheval de Troie pour d'autres travaux d'urbanisation, une urbanisation qu'ils combattent sous quelque forme que ce soit. Ils proposent, eux, un projet alternatif d'agriculture de proximité soutenu par des ingénieurs, des urbanistes, et de nombreuses ONG. Le projet Karma, qu'ils se disent prêts à négocier avec les élus locaux, ces derniers, pour l'instant, ne veulent pas en entendre parler.
Merci Anne-Laure Chouin. Avec des affrontements d'une violence inédite entre protestataires et forces de sécurité, l'Irak a vécu hier sa journée la plus sanglante depuis qu'a éclaté cette semaine un vaste mouvement de contestation réclamant tout à la fois des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants corrompus. Un mouvement déjà endeuillé par la mort de 33 personnes auxquelles il faut encore ajouter un millier de blessés. Alors hier soir, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, lequel s'apprête à souffler sa première bougie à la fin du mois, est sorti enfin de son silence pour défendre à la télévision le bilan de son gouvernement tout en réclamant davantage de temps pour mettre en place les réformes promises à son arrivée au pouvoir. Toujours est-il que si depuis un an Adel Abdel Mahdi essaie de concilier les contraires pour tenter de sauver le système politique en place, il aura donc suffi d'une étincelle, une jeunesse exaspérée aujourd'hui par la misère et la corruption pour que le régime se retrouve menacé. Reportage hier soir dans les rues de Bagdad, signé Lucille Wasserman.
Les Irakiens ne décolèrent pas à Bagdad. Positionnés à un rond-point à l'ouest de la ville, des dizaines de manifestants font face à des forces de sécurité tard dans la soirée. Parmi eux, Ali, la trentaine, a les larmes aux yeux. Il manifeste aujourd'hui pour ses droits, dit-il.
D'après la Constitution, il y a une sécurité sociale, un soutien pour les personnes âgées, une protection pour les enfants, des services sociaux, Internet. Mais non, il n'y a rien ici.
Tous dénoncent les pénuries d'électricité et d'eau potable, ainsi que le chômage qui touche près d'un jeune sur quatre à Bagdad, comme Ahmed, 28 ans.
J'ai un doctorat et je n'ai pas d'emploi. Je dois faire quoi? Vendre un rein?
Autre raison de leur colère, la corruption endémique dans le pays, comme l'explique cet autre manifestant.
Ils volent les gens, ils détruisent le peuple. Aucun des membres du gouvernement ne souffre comme nous en souffre.
Tous disent vouloir réformer le système, changer le régime. Ils ne dénoncent pas un an, mais 15 années de mauvaise gestion gouvernementale.
À Hong Kong, où les batailles de rue entre activistes pro-démocratie et forces de l'ordre se sont intensifiées ces derniers jours, les autorités semblent décidément de plus en plus démunies face à ce mouvement de contestation qui depuis 4 mois ébranle le territoire semi-autonome chinois. Et c'est ainsi que le gouvernement envisagerait à présent de réactiver des lois d'urgence, une législation datant de la période coloniale et qui n'avait plus été appliquée depuis un demi-siècle. L'exécutif s'est réuni ce matin pour débattre de sa mise en œuvre. Les précisions sur place de notre correspondante Florence de Changy.
Dans les minutes qui ont suivi l'annonce par la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, de l'interdiction du port de masque lors de manifestations non autorisées, la bourse de Hong Kong a brutalement chuté et des manifestations spontanées ont eu lieu dans de nombreux endroits du territoire. D'ailleurs, avant même de savoir si la loi anti-masque allait être adoptée comme on le craignait, les manifestants avaient annoncé une journée masque pour tous appelant tout le monde à porter un masque aujourd'hui. En vertu de ce texte, les contrevenants seront passibles d'un an de prison avec 6 mois supplémentaires s'ils résistent lors de leur interpellation. Le gouvernement s'est voulu rassurant en insistant sur le fait que de nombreux pays libres, comme la France, avaient déjà ce genre de loi anti-masque et que l'on était loin de déclarer l'état d'urgence. Mais au-delà de cette mesure anti-masque que les Hongkongais prennent comme une nouvelle atteinte à leur liberté d'expression, la décision inquiète surtout car le gouvernement l'a prise en court-circuitant totalement la procédure législative normale et en invoquant une loi d'urgence datant de l'époque coloniale et permettant au gouvernement de passer des lois par décret. Pour le jeune parti d'opposition des Mossisto, ce recours à des lois d'urgence marque le début de la fin de Hong Kong. Pour l'avocat et député du Civic Party Dennis Kwok, le retour à ces lois d'urgence est dénoncé comme une dangereuse dérive vers un système autoritaire. Cette initiative confirme que le gouvernement, tétanisé par ce mouvement de protestation, ne voit que la répression comme outil de gestion de cette crise.
L'expression désordonnée de la frustration de Donald Trump, ulcérée par une procédure de destitution qui assombrit son mandat et pèse sur ses chances de réélection en 2020, serait-elle désormais sans limite ? Dans une fuite en avant destinée sans doute à reprendre la main, le locataire de la Maison Blanche a de nouveau joué la surenchère hier en invitant publiquement cette fois-ci l'Ukraine mais aussi la Chine à enquêter sur son potentiel adversaire démocrate pour la prochaine présidentielle, Joe Biden, de même que son fils et homme d'affaires Hunter Biden, lequel avant de siéger au conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne avait investi en Chine dans des activités de conseil à l'époque où son père occupait le poste de vice-président ou quand Donald Trump, sans fournir la moindre preuve, laisse entendre que Joe Biden aurait favorisé donc de manière indue les affaires de son fils. À l'instar de la semaine dernière où la Chambre des communes avait déjà été le lieu, sinon le théâtre d'échanges particulièrement vif, la séance d'hier aura une nouvelle fois été animée, venue défendre son plan pour le Brexit devant les députés. Boris Johnson y a assuré que Londres avait fait preuve d'une grande flexibilité pour trouver un arrangement, manière sans doute pour le Premier ministre d'anticiper un éventuel échec des négociations et d'en faire porter la responsabilité aux seuls Européens, lesquels, tout en se disant ouverts à la discussion, se montrent pour l'heure plutôt dubitatif quant aux dernières propositions venues de Londres. Et puis, faut-il y voir un signe des temps, en l'occurrence de la régression de la plus ancienne démocratie parlementaire du monde ? Hier, une toile de Banksy mettant en scène des chimpanzés assis sur les banquettes vertes de la Chambre des communes, en lieu et place donc des députés, a été adjugée près de 10 millions de livres, une enchère record pour le street artiste britannique. L'invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la Convention citoyenne pour le climat, Thierry Pech, directeur de la Fondation Terra Nova, en direct et en duplex du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors c'est un exercice inédit donc dans la vie démocratique française qui s'ouvre aujourd'hui avec le lancement de cette convention citoyenne pour le climat. Concrètement, 150 personnes tirées au sort, censées refléter l'ensemble de la population, vont être amenées à proposer au gouvernement des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Thierry Pech, comment tire-t-on au sort 150 personnes parmi plusieurs dizaines de millions de Français ?
On demande à une machine de générer des milliers de numéros de téléphone au hasard sous le contrôle d'un huissier. Et donc là, on a demandé à une machine de générer 255 000 numéros de téléphone complètement au hasard. Et ensuite, on a procédé à des appels pour présenter la proposition et proposer aux gens donc de nous rejoindre.
Est-ce que vous avez beaucoup de refus ?
Alors, on a eu finalement assez peu de refus. Si je compte uniquement les personnes avec lesquelles on a pu avoir une conversation, parce que beaucoup d'appels tombaient dans le vide ou tombaient sur des numéros qui n'existaient pas, puisqu'ils avaient été générés de façon aléatoire. Si je compte uniquement ceux avec qui on avait une conversation, sur 100 personnes, 30 nous disaient oui tout de suite. 35 nous disaient, il faut que je réfléchisse, donnez-moi un délai. Et 35 nous disaient, non, je ne participe pas, je ne peux pas. C'est-à-dire que 65% des gens manifester un intérêt pour la Convention citoyenne pour le climat, ce que j'interprète comme une appétence très forte dans le pays pour les exercices de démocratie participative, délibérative, dès lors qu'ils sont crédibles.
Et ils savaient de quoi ils retournaient ? Ou alors il fallait leur expliquer, demander des explications ?
Alors parfois certains en avaient entendu parler, puisque le projet était public depuis longtemps. Certains sur le fond des questions écologiques étaient déjà très mobilisés, très motivés. Et puis d'autres découvraient l'objet.
ce sont pas des spécialistes. Il va y avoir plusieurs phases dans cet exercice-là. Il va falloir qu'ils s'approprient les choses. Comment on leur propose de s'approprier ça? Comment ils vont le faire?
Alors vous avez raison, ce ne sont pas des experts et ils n'ont pas vocation à le devenir. Ce qu'on leur demande, c'est pas de produire de la connaissance. Il y a beaucoup de connaissances sur les sujets écologiques. C'est de nous indiquer leur jugement sur toutes les grandes controverses qui divisent les Français, sur la façon de rénover les bâtiments, sur la consommation alimentaire, sur que sais-je. On leur demande leur jugement. Et pour que ce jugement soit éclairé, bien sûr, on va leur donner des informations. Alors, il y a un préalable qui est un socle général d'informations sur le réchauffement climatique, le consensus scientifique sur le réchauffement climatique, sur les scénarios d'évolution, sur ce qu'on a fait depuis 20 ans pour lutter contre le réchauffement, même si ça a peu marché, sur les engagements qu'on a pris, enfin bref, sur tous ces éléments, on leur donne des informations. Et ensuite, on leur donne accès à des experts qui viennent pas forcément faire un cours magistral, hein, mais qui sont à leur disposition. C'est-à-dire parfois c'est les citoyens eux-mêmes qui leur posent des questions, qui les mettent en situation, si vous voulez, d'être les serviteurs de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis ils peuvent aussi nous dire, ces experts on n'en veut pas, on en veut d'autres. La Convention est autonome dans le cadre qui lui est fixé. C'est eux qui ont le pouvoir d'une certaine façon.
Après cette phase d'appropriation des sujets, il va falloir qu'ils tranchent. Comment on passe à cette phase-là? Il y a un vote qui est
organisé. Alors, ils vont travailler en groupe sur chacun des 5 thèmes qui ont été identifiés. Donc, se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, travailler et produire. Donc, des sujets qui sont en forte résonance avec leur vie quotidienne et en même temps avec les problèmes du pays. Et sur chacun de ces grands sujets, ils vont formuler des propositions. Et lorsque le groupe sera mûr, aura le sentiment d'être à maturité sur ces propositions, à la fin, en plénière, ils voteront sur chacune des propositions séparément et ils voteront sur l'ensemble des propositions comme un paquet cohérent. Et on permettra aux minoritaires, imaginons que sur une proposition, la Convention vote à 75% pour, on permettra aux 25% qui ont voté contre de dire pourquoi, de présenter leurs arguments, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perdant. L'esprit de la Convention, c'est pas ça. L'esprit, c'est de la délibération, c'est l'opposition saine des arguments pour arriver à des propositions, et on voudrait que même ceux qui sont minoritaires puissent dire pourquoi.
En quoi est-ce que c'est censé redonner du souffle au débat démocratique?
Je pense qu'on l'a observé ces derniers mois. La démocratie réduite au système électoral représentatif ne peut pas permettre aujourd'hui d'identifier les consensus pour agir collectivement sur une question comme le réchauffement climatique. Et c'est bien ça qu'il s'agit de déceler. C'est ça qu'il s'agit de déceler. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un péril climatique qui est devant nous, qui est déjà là. En revanche, on est beaucoup moins d'accord quand il s'agit de dire comment on va lutter contre efficacement ensemble. Et donc, si cette Convention citoyenne devait avoir une mission, ce serait fondamentalement celle-là. Quel est le chemin d'action collective, ensemble, pour lutter efficacement contre le changement climatique? Et je dirais que si on arrive à ça, et je suis sûr qu'on y arrivera, on ne se substitue pas à la démocratie représentative. On lui ouvre le chemin. Et ensuite, bien sûr, elle reprend ses droits. C'est un service rendu aux représentants, aux élus. C'est pas du tout une substitution. Et d'une certaine façon, que les politiques eux-mêmes aient choisi de donner naissance à cette convention, puisque c'est le président de la République qui l'a appelé de ses voeux, c'est un geste de confiance à l'égard des citoyens. Et j'espère que ce geste de confiance se poursuivra et que les engagements qui ont été pris par l'exécutif seront honorés. Le président de la République a dit qu'il soumettrait sans filtre les propositions de la Convention citoyenne, soit au référendum, soit aux parlementaires. Eh bien, si on va au bout de ce processus dans ces conditions-là, je pense qu'on aura écrit une belle page d'histoire.
Ça aura l'heure d'exemple, ça doit avoir d'exemple. Ça doit se renouveler, selon vous?
Écoutez, moi, ma mission n'est pas d'industrialiser un processus, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si ça marche, il y en aura d'autres en France et il y en aura d'autres en Europe. On est déjà sous le regard attentif de gens qui ont des projets en Allemagne, en Écosse, en Grande-Bretagne. Beaucoup de démocraties européennes regardent avec une grande attention ce qui se fait aujourd'hui à Paris, parce que le sentiment de devoir renouveler la vie démocratique et la vie civique n'est pas un monopole français. Il est déjà très sensible dans beaucoup d'autres pays européens.
On s'arrêtera là. Merci Thierry Pech, directeur de la Fondation Terra Nova, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à François Rivalan pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert et pluvieux sur le nord, le Grand Est et le quart sud-ouest. Le soleil dominera en revanche le long de la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.